Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Salut, c'est Lucie, la reine, l'émission d'information locale de Canal B sur le point de commencer. Et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, bientôt des parcours autour des ondes électromagnétiques. Deux reportages d'abord à la découverte d'un service de la protection judiciaire de la jeunesse ici à Rennes, puis présentation de l'exposition à Rétro Breakini qui a été conçue par des habitants. Il y aura de la musique dont une nouveauté, la chronique de la CIMADE et puis une recommandation théâtre. Bienvenue dans l'arène. On commence cette émission comme chaque jour avec l'info du jour que j'ai choisi pour vous. Aujourd'hui, on s'arrête sur l'une des 54 propositions issues de la mission d'étude 5G initiée par la ville de Rennes. C'était en 2020, au moment du déploiement des antennes 5G sur le territoire. 40 personnes, des élus et des non-élus, avaient alors planché sur le sujet de novembre 2020 à février 2021 pour aboutir à 54 propositions. Et parmi elles, la suivante, la diffusion d'une information complète et plus transparente sur la 5G et le numérique. C'est dans ce cadre que des parcours ambassade d'ondes ont été imaginés. On pense évidemment au dispositif ambassadeur qui existe déjà pour informer sur la qualité de l'air. Là, il faut imaginer une balade urbaine de 2 heures au cours de laquelle l'animateur invite le public à identifier la présence d'antennes, d'antennes de la 2G à la 5G et qui sont parfois un peu cachées dans le décor. Aujourd'hui à Rennes, il y en a en tout 1143 répartis sur 178 sites. L'occasion aussi, avec ces balades, de découvrir les capteurs installés par la mairie. Il y en a 10, des sortes de becs de canard, décrivent les journalistes de France 3 Bretagne, et une façon de mesurer en temps réel les ondes, dont les chiffres sont ensuite disponibles en ligne sur l'Observatoire des ondes. On rappelle que le seuil d'attention fixé par l'Agence nationale des fréquences, il est de 6 volts par mètre. Ce jeudi 14 décembre, le chiffre le plus élevé le concernait le quartier Écourouze avec 4 volts par mètre. Tous les taux d'exposition sont des taux qui sont acceptables, résume Pierre Jeannin, conseiller municipal délégué au numérique et à l'innovation à la mairie de Rennes. Mais il faut que l'on soit vigilant. Ces parcours ambassade d'ondes, ils devraient être proposés au public en début d'année prochaine. Plus d'infos sur le site métropole.rennes.fr. Allez, après cette info du jour, place à un premier reportage. Reportage réalisé par Antoine Blécon, bénévole pour l'émission, qui a participé aux portes ouvertes de la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse. C'était le 23 novembre dernier et 8 établissements participaient à l'opération dans le Grand Ouest. Parmi eux, l'établissement de placement éducatif et d'insertion de Rennes. On est dans le quartier Clenay et c'est un lieu qui comprend une unité éducative d'hébergement collectif et une unité éducative d'activité de jour qui reçoivent des mineurs jugés pour des faits de délinquance. Le détail dans un reportage, c'est tout de suite.
Merci. Donc là, on arrive au dortoir, comme vous voyez, hein, ce que je vous disais, il ne faut pas regarder, ça, tout va être refait. C'est vrai que ça, le bâtiment, il porte les cicatrices, un peu tout. Des fois, je me dis qu'on devrait faire passer des certifications pour des produits. Ce serait plutôt pas mal en termes de résistance. Donc là, ici, c'est le coin lecture. Ça a été fait il y a 2 ans. On travaille avec des associations, donc on se fait fournir des livres. Il est beaucoup investi. Au départ, c'était quelque chose qui était défendu par 2 éducateurs ici, dont une, Julia, qui travaillait vraiment, qui est plutôt axée, elle, sur les médias, la culture. Et elle a mis ça en place ici. Et ça marche très bien, en fait. Ça marche très, très bien. Parce que les jeunes viennent s'apaiser ici. On a beaucoup de jeunes qui, au départ, sont plutôt revêches. Et on s'aperçoit de la disparition de livres. Donc on se dit, bah tiens, est-ce qu'il se passe quelque chose? Et en fait, on les retrouve dans les chambres.
L'établissement de placement éducatif d'insertion de Rennes, ou EPEI, fait partie de la protection judiciaire de la jeunesse. Sa mission est d'accompagner les mineurs qui font l'objet d'une décision judiciaire. Le 23 novembre, il nous a ouvert ses portes. Il est composé de 4 unités. Une prévoit un hébergement sur place, comme un internat. C'est l'unité éducative d'hébergement collectif. Une prévoit un hébergement à l'extérieur, un hébergement individuel, en foyer ou en famille d'accueil. C'est l'unité éducative d'hébergement diversifié. Deux autres sont dédiées à l'accueil de jour. Les unités éducatives d'accueil de jour. Romain Liénard, éducateur.
Voilà, et je me passe...
Donc, je suis éducateur, je suis affecté à l'EPEI, hein. L'EPEI c'est l'ensemble, hein, l'UAJ, le foyer collectif. Et on est missionné, donc on est deux éducateurs, une psychologue qui travaille à mi-temps, et on prend en charge une douzaine de jeunes, donc sur l'extérieur, c'est pour ça qu'on appelle ça hébergement diversifié. Alors l'extérieur c'est quoi? C'est d'abord un appartement éducatif où on peut accueillir deux jeunes. Bon, il faut que les deux jeunes voilà, se tirent vers le haut, hein, on fait attention aux associations de binômes. On travaille également avec des FJT, on travaille également avec des familles d'accueil. Et puis la petite nouveauté à la PJJ, je dirais depuis 2 ans, c'est qu'on travaille à partir du domicile des parents. À la PJJ, on appelle ça des PEPAD, placement éducatif avec présence au domicile des parents. C'est une alternative de placement qui est assez intéressante, dont nos collègues de milieu ouvert qui nous sollicitent et des magistrats qui ordonnent le placement se saisissent, puisque aujourd'hui là on a une dizaine de jeunes et les 10 sont pris en charge à partir du domicile des parents.
Guillaume Etès, voilà. Directeur de service.
Donc, 3 ailes, les 2 ailes garçons qui sont là. Vous avez 12 chambres, donc là, il y a 2 chambres ici, 10 chambres là. Enfin, 4 et 5. Et la numéro 5, c'est celle qui est la chambre d'arrivée. C'est celle quand un jeune arrive, notamment en PEAT, c'est la seule qui a des barreaux aux fenêtres. Le temps qu'on puisse évaluer s'il n'y a pas de possibilité de passage auto-agressif, puisqu'on a beaucoup de jeunes aussi qui sont sur cette problématique-là. Donc on travaille avec eux, et au bout d'une semaine d'observation, ils passent sur leur chambre. Voilà. Alors, les sanitaires et douches sont ici pour les garçons, et là c'est l'aile pour les filles.
La durée de prise en charge des adolescents est variable, mais elle excède rarement 18 mois. La capacité d'accueil de l'EPEI étant de 12 personnes sur place et de 12 personnes en hébergement diversifié.
Donc ouais, on n'alterne pas, bien sûr on respecte les choses. On a nos cuisiniers qui arrivent à faire des assiettes qui sont semblables pour tout le monde, ce qui fait que ça évite les discriminations. Donc ils s'emploient tous les jours, le dur labeur, parce que malheureusement des fois les jeunes arrivent ici, ils ont pas le bon palais, donc ils se font chahuter des fois aussi, en disant que c'est pas bon, et pourtant... Je peux vous garantir qu'ici, il n'y a pas de gamelle de poser au milieu de la table. Ils sont servis tous à l'assiette. On y met un point d'honneur. Et ils y mettent un point d'honneur parce qu'en plus, ils habillent l'assiette. De façon à ce que ce soit joli, agréable pour eux. Pour qu'ils vont essayer de développer en fait leur envie d'avoir du qualitatif. Voilà. Tout est cuisiné en frais. On travaille sur des circuits courts ici. Donc ça, c'est les cuisiniers qui s'en occupent. Donc on se fait livrer... par les fermes, des fermes de Bain-de-Bretagne, pour tout ce qui est fruits et légumes. Et là, on va travailler sur la viande au niveau des 12 arômes du côté de Béton. On a un restaurant d'application qui est à Clenay, qui s'appelle l'école Marmiton, où après, les jeunes sont envoyés, en fait. Ils travaillent avec Prisme là-dessus. Et donc, c'est un restaurant qui est ouvert à tout le monde, où ce sont les jeunes qui travaillent et qui préparent à manger pour le restaurant, en fait. Donc, on travaille vraiment la cuisine. Là, les cuisiniers, alors là, c'est Rudy qui est là, mais on a William qui n'est pas là. William, lui, revient d'une compétition nationale, le Parcours du Goût, où on avait des jeunes d'ici qui sont partis avec lui, présentés au chef du Ken, puisqu'il y avait un jury, c'était national, une recette et qui représentait la Bretagne.
Cyril Chevalier, professeur technique.
Donc le public au niveau scolaire, c'est assez varié. Ça va des illettrés, où j'ai en général, quand ils ont 15 ou 16 ans, illettrés, c'est qu'ils sont souvent 10 quelque chose. Donc j'ai pas mal de documents, je me suis équipé pour tout ce qui est illettré, apprentissage de la lecture et de l'écriture, et du calcul. Ensuite, on a beaucoup de jeunes qui ont un niveau collège et qui se destinent souvent à un apprentissage ou à un lycée professionnel. Donc là, je les prépare à toutes les matières scolaires du CAP, de la première année, de la seconde professionnelle. Donc le français, l'histoire géo, l'éducation civique et morale, les maths, les sciences physiques et chimiques. Je ne fais pas les langues étrangères. Et la prévention santé environnement, qui fait déjà pas mal
de matières. On a eu un petit jeune dernièrement qui était doué de ses mains. C'est un carrossier, il a découvert ça chez nous. Le problème, c'est qu'au CFA, bah, c'est pas passé au niveau de la théorie parce qu'il n'y arrivait pas. Il n'arrivait pas à tenir la concentration sur une journée. Quand c'est comme ça, Cyril essaye de voir avec les CPE. Et on a beaucoup de CPE qui travaillent avec nous là-dessus, qui, plutôt que de virer le jeune
essayent de trouver une solution à pouvoir s'adapter, et c'est Cyril qui travaille là-dessus avec eux, en fait, pour essayer de faire passer les choses.
Le jeune n'allait plus en cours au CFA, et il venait à l'UAJ, et je lui faisais son programme du CFA pour, à la place. Et on a réussi à tenir comme ça. Et comme ça, il avait le niveau pour passer ses examens.
Moi, c'est Davidé, je suis éducateur technique à l'atelier ici à l'UAJ depuis mars 2023. Et très modestement, on propose à l'UAJ donc, des ateliers techniques aux jeunes pour tester des parcours professionnels, pour la remise à main des outils et de ses propres mains, pour le coup, parce que c'est important. Et c'est souvent l'unique moyen, des fois, de rentrer en contact avec le jeune, puisque le jeune n'a pas un niveau de français suffisant pour vraiment lire des bouquins et dire, bon, la notice, elle est comme ça, voilà, on passe par le technique. Et on parle avec les mains. Donc, nous avons deux conventions principales en place à ce moment à l'UAJ, très importantes pour nous, toujours avec Emmaüs France. Une le mardi, tous les mardis, nous on va avec les jeunes au siège d'Emmaüs Ille-et-Vilaine à Aidé-Bazouges. Moi, je fais formateur pour le compagnon responsable de l'atelier là-bas, un mécanique cycle. Ils ont plein de vélos, hein, voilà. Et pour le coup, les vélos, c'est bien pour eux, c'est plus intéressant de les révaloriser et faire quelques réparations. On ne refait pas les vélos à neuf, hein, mais on les rend juste fonctionnels et en sécurité pour pouvoir faire en sorte que le client qui arrive aille un vélo au minimum fonctionnel et en sécurité. Voilà. Et tous les jeudis, on va à la briqueterie solidaire à Chevigny, au nord de Rennes, à côté de Saint-Sulpice, je ne sais pas si vous voyez. Dans une nouvelle communauté Emmaüs qui s'appelle Terre. Et ils font deux activités principales, la briqueterie solidaire, donc du travail sur la terre crue, et la bricote solidaire, du recyclage de matériaux du bâtiment. Donc c'est du démontage des maisons. Ils recyclent plein de matériaux le plus possible. Et la terre, bah, en nord de Rennes, vous savez, la zone de Rennes, en tout cas, elle est très connue depuis des siècles pour l'utilisation de la terre crue pour la fabrication de maisons.
Donc qu'est-ce que c'est que la psychobox ? C'est un dispositif thérapeutique, et donc c'est bien l'aspect thérapeutique et non sportif qui est le plus important dans cette pratique-là. Donc elle consiste en un assaut d'une minute trente, dans un cadre bien défini, avec un psychoboxeur, donc Ferdinand ou moi, sur cette place de psychoboxeur dans la mise de gants, on est interchangeable. Et la deuxième personne va veiller au temps, va veiller au bon déroulé de l'échange. Et s'ensuit une période de 40 à 45 minutes d'échange, en fait. Après l'assaut, on va accompagner le jeune à mettre en mots et à l'aider, en fait, à élaborer sur tout ce qui a pu se jouer pendant cette minute 30, l'aider à faire des liens aussi sur le parcours de vie. En fait, on vient vraiment éprouver la violence et le rapport au corps. Et à travers le mouvement du corps, voilà, ça permet de faire ressortir beaucoup de choses. Et donc derrière, de les accompagner à verbaliser. C'est souvent la difficulté avec nos adolescents, c'est de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Et d'autant plus quand on est confronté à des questions de violence. Et donc ce dispositif-là permet un média, en fait, très intéressant dans la pratique avec les jeunes.
L'équipe que nous avons rencontrée est principalement composée d'éducatrices et d'éducateurs. L'objet de cet établissement n'est pas l'application d'une peine, mais bien l'insertion. Et dans ce sens, l'accompagnement est global. Éducation alimentaire, accompagnement vers le permis de conduire, mise à niveau scolaire, recherche de stage, soutien psychologique. Le PEI se présente comme un cocon où les mineurs peuvent reprendre confiance.
I'm in the countryside on my old bike. I'm in the countryside soaking up the sunlight. I wanna tell you how I feel, but I'm nervous. Loosen up the shoulders, grease on the elbows. There's too much tension, learn to let it go. I wanna tell you how I feel, but I'm nervous. Your spine and your hand is in mine. I wanna tell you how I feel, but
life with many questions. Thank you for the early morning conversation. I'm hard on my heart like a rock over a flower. The beauty wants to bloom, but it needs more water. Slowly I'm getting older. Slowly I'm getting kinder too.
For You par Merin Jean, artiste australienne installée à Paris. Titre que vous venez d'entendre sur Canal B. Et c'est une nouveauté musicale qui a été présélectionnée par Yann, notre programmateur musical ici à Canal B. Ce single, il est sorti le 17 novembre chez Rescue et Return Records. Un avant-goût du deuxième album de cet artiste qui est attendu pour février 2024. Dog Beach, c'est son titre. Vous écoutez La Reine, l'émission d'info locale de Canal B, sans doute branchée sur le 94.0 ou peut-être connectée en ligne sur canalb.fr, et c'est l'heure d'un deuxième reportage. Et cette fois, c'est Corentin, volontaire en service civique, qui s'est rendu à l'espace social commun Aimé Césaire, dans le quartier Bréquigny, pour découvrir Rétro Bréquigny, une exposition mise en place par 7 habitants du quartier. Ces derniers ont en effet pris la casquette de commissaire d'exposition en janvier 2023 et pour un an, grâce au dispositif des nouveaux commissaires pilotés par la ville de Rennes. L'expo, elle est à voir jusqu'au 30 décembre et elle explore l'histoire, la sociologie et l'architecture de Bréquigny à travers les collection du Musée de Bretagne, des Archives de Rennes et d'Aiguillon Construction. Tout de suite, entretien avec Arthur, habitant et nouveau commissaire, ainsi qu'avec Delphine Gallois, la directrice du patrimoine à la mairie de Rennes.
Je suis devant l'ESC Champmanceau dans le quartier Bréquigny pour parler de l'exposition Rétro Bréquigny, cliché du quartier 12. Bonjour Delphine, bonjour Arthur.
Bonjour, je suis Arthur, je suis un des commissaires qui a participé à l'élaboration de l'exposition Rétro Bréquigny.
Donc je suis Delphine Gallois, je travaille à la direction de la culture, je m'occupe de la politique patrimoniale.
Si on est là aujourd'hui, du coup, c'est pour présenter votre exposition qui a été organisée dans le cadre du projet des nouveaux commissaires. Elle parle de quoi cette expo ?
Alors c'est une exposition sur le patrimoine du quartier de Bréquigny, jusqu'au patrimoine assez récent, et sur les idées reçues qu'on peut avoir sur le quartier.
La particularité de l'expo, c'est qu'elle a été organisée dans le cadre du dispositif des nouveaux commissaires. C'est quoi le principe de ce dispositif ?
Alors, les nouveaux commissaires, c'est un dispositif de la ville de Rennes, de la direction de la culture, qui est un dispositif participatif de médiation qui consiste à proposer à des bénéficiaires du CCAS de devenir des commissaires d'exposition et de créer une exposition de A à Z, du choix des œuvres jusqu'à la scénographie et ensuite la réalisation de visites de l'exposition.
Elles ont été choisies comment, les personnes qui ont participé à ce projet ?
Il y a à peu près un an, il y a eu un appel à volontaires dans le CCAS Champmanceau, avec un petit dépliant de présentation du dispositif. Et donc un certain nombre d'agents, futurs commissaires, se sont portés volontaires et ont constitué un groupe. Mais ce qu'il faut préciser, c'est qu'ils ne se connaissaient pas avant et que c'est vraiment sur la base de cet appel que le groupe s'est constitué.
Les commissaires de cette expo avaient comme point commun de fréquenter le CCAS et de s'être portés volontaires pour participer à ce projet. Ça n'a pas été compliqué au début de se trouver d'autres bases communes pour faire quelque chose ensemble ?
C'est vrai qu'à la base, on était vraiment un groupe de personnes toutes différentes. Je pense qu'il y avait une légère forme d'isolement de chaque personne qui a fait qu'on a tous été amenés à se découvrir sur le tas pour justement constituer l'exposition. Mais ça a été une expérience très démocratique dans le sens où chacun a porté ses idées.
L'exposition Rétro Bréquigny met en lumière le quartier Bréquigny de Rennes. Évidemment, on ne peut pas tout raconter sur un quartier en une expo. J'imagine que vous avez privilégié certaines thématiques.
Le sujet principal, c'était le patrimoine de Bréquigny. C'était notre sujet à aborder. Et nous, on a choisi de l'aborder dans l'historique, la construction un peu du quartier, en répondant en fait à des questions reçues qu'on s'était nous-mêmes posées en tant que commissaire et qu'on a posées auprès des habitants. On avait donc 4 idées reçues par rapport au quartier Bréquigny. Est-ce que Bréquigny est populaire ? Est-ce que Bréquigny était une terre d'accueil ? Une des idées reçues, c'était qu'un tiers des habitants étaient étrangers. Est-ce que Bréquigny est trop rétro ? Et enfin, est-ce que Bréquigny est encore jeune ? Et c'est des questions auxquelles on répond tout au long de l'exposition.
Bah, là, on voit bien que les commissaires sont vraiment devenus des commissaires d'exposition parce que je crois vraiment que dans les musées, la naissance d'un projet d'exposition est la même. C'est-à-dire qu'au début, on ne sait pas trop où on va. Et puis, à force d'en discuter, il y a des idées fortes qui émergent.
Est-ce qu'il y a des choses que vous avez appris sur le quartier en travaillant pendant 9 mois, c'est ça, sur cette expo ?
Y a forcément des faits historiques qu'on a appris, comme tous les bâtiments qui ont changé par rapport au quartier. Donc c'est notamment certains points qu'on aborde dans l'expo, mais comme des anciens camps de réfugiés qui ont été ensuite réhabilités pour créer des habitations. C'est ce qu'on voit dans l'expo aussi, mais il y avait un véritable besoin de logement par rapport au centre qui était insalubre à l'époque, dans les années 50-60. Et ce qui a donné de grands projets, avec notamment un des personnages vraiment phares de l'exposition, qui était l'ancien maire Henri Friville, qui a vraiment eu une vision un peu futuriste du Rennes qui allait se développer. On a notamment un des extraits de petits films qu'on a de Lina, qui nous parle de Rennes avec en 2000 il y aura 500 000 habitants. Enfin, on avait vraiment une expansion de la population très large qu'on voyait à l'époque, et c'est ce qui a donné le projet de la ZUP Sud et une partie qui fait partie de Bréquigny.
Une des thématiques mises en valeur dans l'exposition, c'est l'importance de la population immigrée du quartier. Est-ce que vous avez des choses à dire là-dessus ?
Une des idées reçues, c'est qu'on pensait que Bréquigny était populaire, dans le sens on a une idée reçue qu'il y a beaucoup d'immigrés à Bréquigny. Or, c'est faux pour ce qu'on montre dans l'exposition. C'est plus une idée de classe par rapport aux travailleurs en fait, de l'époque qui étaient beaucoup d'ouvriers qui travaillaient à la première usine Citroën, il me semble, et qui aussi construisaient le quartier. Donc il y avait ce double rôle des immigrés qui venaient en fait pour construire le quartier et pour y travailler et pour y vivre du coup. Mais ce n'était pas que des immigrés parce que c'était aussi beaucoup de réfugiés qui venaient notamment des pieds noirs. Et on avait aussi une forte population rurale en fait qui venait des campagnes pour justement commencer à travailler dans les usines et à construire le quartier. Et on avait aussi notamment les personnes du centre de Rennes qui voulaient aussi venir, car par rapport au centre qui était vraiment insalubre et où il n'y avait pas d'eau courante partout, par exemple, eh bien à Bréquigny, c'était un peu la révolution de pouvoir arriver dans des appartements où on avait cette idée du confort, un des thèmes qu'on aborde dans l'exposition, qui est l'eau courante, les WC, le gaz et l'électricité. Ce qui pour nous aujourd'hui est un peu basique, mais ce qui à l'époque était vraiment le luxe en fait.
Dans ce projet, il y a une ambition de créer une exposition par et pour les habitants. Est-ce que c'est un pari tenu ?
Alors, je pense que oui. D'une part parce que l'exposition est vraiment très réussie. Et l'autre chose, c'est que je crois que c'est la démonstration que le récit patrimonial rennais, il n'est pas réservé à des experts. Et que, en fait, chaque habitant a quelque chose à dire par la discussion, par la recherche dans les archives, au musée de Bretagne, par la confrontation avec des experts. On arrive collectivement à raconter quelque chose sur Rennes qui concerne l'ensemble des habitants. Donc je pense que c'est réussi.
On a eu beaucoup de visiteurs qui sont justement habitants du quartier et qui ont vraiment appris des choses ou confirmé des choses, car c'était souvent des habitants qui habitaient le quartier déjà à l'époque, en fait. C'est un aussi des thèmes qu'on aborde dans l'exposition, c'est que la population à Bricquigny a vieilli beaucoup plus que dans d'autres quartiers de Rennes, parce que notamment, c'est une des idées qu'on a, c'est qu'en fait les personnes se sentent bien, les habitants sont heureux d'être dans ce quartier. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont restées dans ce quartier tout au long de ces années, et qui viennent découvrir l'exposition et qui nous donnent des anecdotes de l'époque. On a eu vraiment des bonnes expériences par rapport à ça, des personnes qui réagissaient et qui disaient « Ah, moi j'habitais ce bâtiment quand il a été construit ». Donc c'était une façon vraiment de présenter le quartier aux habitants, et les habitants eux-mêmes venaient le redécouvrir, en fait.
En parallèle de la tenue de l'exposition, des visites du quartier et des conférences ont déjà été organisées. C'est quoi l'objectif de ces événements ?
L'ensemble de la programmation qui a vraiment été élaborée par les commissaires vise à faire connaître l'exposition et transmettre son contenu d'une autre manière que uniquement la visite en autonomie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est lié à tout projet d'exposition dans n'importe quelle structure. En fait, on fait une exposition, mais on fait aussi une programmation culturelle autour qui donne envie de découvrir l'exposition.
Ça fait partie aussi de ce que les commissaires ont eux-mêmes fait pour redécouvrir le quartier. C'est du patrimoine qu'il faut pouvoir présenter aux habitants pour qu'ils se rendent compte que leur quartier est plein de richesses.
Toi, Arthur, comment tu t'es retrouvé à participer à ce projet ?
Donc, c'est mon référent au CCAS qui lors d'un entretien, m'a parlé du projet. Moi, je lui avais fait part en fait, de mon goût pour le graphisme et que j'ai débuté un peu dans ce domaine. Et ma sensibilité à l'art en général fait que ça m'a intéressé de découvrir. Le fait d'aborder le quartier de cette façon, c'était une façon nouvelle de le faire.
Est-ce que tu avais un rôle spécifique dans le projet ?
Alors, un des rôles que j'ai eu, c'était de faire des recherches par rapport à l'identité visuelle en fait, de l'exposition. J'ai notamment fait les infographies, donc les illustrations pour expliquer les statistiques. Mais dans l'ensemble, oui, c'était vraiment plus un choix plastique, je dirais, que j'ai eu. Puis certaines idées, mais tous les commissaires, en fait, ont apporté un petit bout à chaque partie. Donc là, on a une partie de l'expo qui est assez intéressante. C'est que c'est une photographie aérienne du sud de Rennes, où on a en fait chaque visiteur qui a placé sa petite gommette dans le quartier.
La gommette, du coup, c'est l'endroit où habitent les personnes qui ont visité l'exposition ?
C'est ça, oui. Donc là, on peut voir, enfin, je ne sais pas si on peut les compter, mais les gens qui ont pris l'initiative de le faire se sont bien amusés à le signaler, je pense. Et donc, comme on le voit, il y en a beaucoup qui font partie du quartier, mais ça montre que l'exposition, je pense, a un peu plu. Il y a des gens qui ont mis un peu autour.
Là, du coup, c'est ici que sont les photos du musée de Bretagne ?
Alors, toutes les photos qu'on utilise, okay, sont du musée de Bretagne. Il y a juste certaines ressources qui viennent de Aiguillon pour ce qui est des plans, en fait. Je crois que la coupure journal aussi du musée de Bretagne, je crois ça. C'est la coupure originale, ça. L'ouverture du Central Main, on avait Julien Clerc aussi.
C'est considéré faire partie du quartier Bricquigny, le Central Main ?
Le Central Main, oui, il fait partie, okay, du quartier Bricquigny. Donc tu vois, sur la carte, c'est ça, en fait. Vraiment tout ce carré-là. Et nous, ce qu'on aborde dans l'expo, c'est il y a Bricquigny, donc le quartier qui a été fait, et aussi la ZUP Sud, qui était aussi un autre projet, mais qui a pris une partie de Bricquigny.
Okay.
Et on a du coup les grandes installations comme le Central Main, le lycée de Bricquigny, et aussi la plaine de jeu avec la piscine de Bricquigny.
Et elle vient d'où, cette maquette ?
Et cette maquette, elle a été faite par un artisan de la région, qui est Thibaut Ayache, et qui a fait pour nous cette découpe...
Découpe laser, c'est ça ?
C'est ça, oui, une découpe laser sur du bois de tout le quartier Bricquigny, avec toute la complexité de chaque bâtiment. Et c'est une maquette qui a été très appréciée par le public.
Ah bah ouais. C'est un peu la pièce centrale de l'expo.
Ouais. Donc les couleurs sur la maquette sont reliées au thème, en fait, de l'exposition.
Ok, ouais.
Le violet pour Alma, le rose pour Bricquigny, et tout ce qui est le vert, c'était les bâtiments qui ont accueilli justement, notamment les pieds noirs ou ce genre de choses. Donc,
okay.
Cette photo-là est vachement intéressante parce que c'est que on voit justement à l'initiative d'Henri Fréville, donc le maire de Rennes,
ouais.
De l'époque, qui voulait vraiment moderniser le Sud pour loger le plus de personnes possible, avec tous les enjeux sociaux qu'il peut y avoir, notamment sur l'entente entre les habitants. Georges Graff, lui, il a joué un rôle là-dedans pour la construction des bâtiments et l'harmonisation un peu de l'espace. Et on voit que Charles de Gaulle était présent, donc c'était vraiment une initiative exemplaire un peu pour la ville en général et pour la France, je pense, en tant qu'exemple. Parce que notamment, ce qu'on apprend dans l'expo, c'est que le Centre Alma, c'est le troisième centre commercial de France à l'époque.
Ouais.
Les premiers étaient à Paris et un à Nice. C'est assez intéressant de voir qu'à l'époque, Rennes était déjà un peu sur le devant de la scène. Je vais
essayer de dire comme ça. Est-ce que tu t'intéressais déjà à ces sujets d'urbanisme, de sociologie, avant de participer au projet ou...
Ouais. C'est quelque chose que j'ai abordé légèrement dans mes études avec de l'aménagement du territoire. J'ai toujours trouvé ça intéressant et puis même c'est très direct envers nous, en fait, c'est ce qui nous concerne indirectement, mais voilà, c'est dans une ville, il faut créer des espaces où les gens peuvent circuler, où les gens peuvent se reposer, donc c'est vachement intéressant de découvrir un peu la base de tout ça à travers des maquettes, en fait, et des plans, et de se dire, on a constitué une ville sur du papier, quoi.
Rétro Bricchini, cliché du quartier 12, c'est une expo mise en place grâce au dispositif des nouveaux commissaires. Elle est visible gratuitement jusqu'au 30 décembre à l'espace social et culturel Aimé Césaire à Rennes.
Étoiles, 4 heures matin fini, levé, guette mon corps, comme est bien esquinté. Look à moi, joyeusement dessus la chaussée, le corps est bon, mais le cœur lisé. Morceau là, zotti, vois-moi là pour chanter, crois-moi, les pas bon pour la santé. Rassura, moins vite dessus mon moi j'en sens le soin, la pas envie de mourir. Mal papa, oui t'es les radiants. Mal papa, 2 francs 50 l'a pas besoin. 7 francs 50 moi l'a besoin. Mal papa, oui t'es les radiants. Mal papa, 2 francs 50 l'a pas besoin. 7 francs 50 moi l'a besoin.
Gardons-nous mon camion à billet devant vous. Tu connais quoi, moi la meuf.
Si Watia Zoreiband et son morceau Mon poil est au feu, un titre qu'on retrouve sur l'album Delirium qui est sorti en 2022. Le deuxième disque de ce collectif naît de la rencontre entre Moriarty et Marjolaine Carlin suite à de nombreux voyages sur l'île de la Réunion. Et tiens, Rosemary Stanley que vous venez d'entendre, on la retrouve en ce moment dans un court-métrage qui est visible en ligne sur la plateforme Cube. Ça s'appelle Harmony, c'est un court-métrage de 2015 qui a été réalisé par Eurydice Calmejan et où on découvre Laura, chanteuse et lyrique qui a perdu sa voix et qui rencontre Lorenzo, un comédien sourd qui s'exprime en langue des signes. Petite recommandation au détour de cette désannonce de morceaux. Vous êtes toujours en train d'écouter La Reine, l'émission d'info locale de Canal B. On poursuit avec la chronique bimensuelle de la CIMADE et c'est Marion, intervenante juridique pour cette association de soutien aux personnes exilées, qui est en studio.
Lors de notre dernière chronique, nous vous parlions déjà du projet de loi Asile-Immigration défendu par le gouvernement. Ce lundi 11 décembre, l'Assemblée nationale vient de voter une motion de rejet avant même l'ouverture des débats. Ce vote confirme que cette séquence autour de ce projet de loi est un naufrage. Mais revenons quelque peu en arrière. Le projet de loi actuel, porté par le gouvernement Macron depuis sa réélection, est le cheval de bataille du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Depuis des années, les gouvernements successifs aiment à suggérer qu'ils vont révolutionner l'immigration avec de nouvelles lois inédites. Ce sujet fait régulièrement l'objet de nouvelles lois, toujours plus restrictives. La France vote ainsi une nouvelle loi immigration tous les 2 ans environ. Le texte, actuellement débattu, sera le 29e depuis 1980. Le 14 novembre dernier, après des jours de scandaleux débats, le Sénat avait amendé et adopté le projet, appelé par ses défenseurs « Loi pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration ». Autant le dire tout de suite, l'objectif d'intégration a été largement écrasé. Il semble que le Sénat ait oublié que ce deuxième aspect de la loi devait être étudié. Jour après jour, l'examen du projet de loi au Sénat a égrené son lot de mesures indignes, absurdes et dangereuses, portées par les parlementaires, mais aussi par le gouvernement lui-même, venant durcir un texte déjà très inquiétant dès son origine. Le Sénat a mis les bouchées doubles en adoptant des mesures restrictives plus stupéfiantes les unes que les autres. La création de quotas pour l'immigration, le durcissement des conditions d'accès au regroupement familial, la suppression de l'aide médicale d'État, le rétablissement du délit de séjour irrégulier, le durcissement de la rétention administrative, la suppression des catégories protégées contre les obligations de quitter le territoire français, ou encore la suppression de l'automaticité de l'acquisition de la nationalité à 18 ans pour les personnes nées en France de parents étrangers. Quant au volet intégration, déjà presque inexistant dans le projet de loi initial, le Sénat a décidé de revenir sur la grande majorité des dispositions. Ainsi, le volet mettant en place un titre de séjour métier en tension sous condition de résidence en France et de travail a été surconditionné, encadré et remis au pouvoir discrétionnaire des préfets. Les conditions d'acquisition de la nationalité ont également été davantage durcies. Pendant ces semaines de débat, des sénateurs ont multiplié de manière totalement décomplexée les outrances et les propos caricaturaux sur l'immigration et les exilés, et ce avec la caution parfois active du gouvernement. Ce lundi, les députés ont voté une motion de rejet du texte. Face à cet échec, le gouvernement s'obstine et décide de renvoyer le texte devant une commission mixte paritaire. 7 députés et 7 sénateurs doivent trouver un compromis sur le texte. La tournure des débats ne présage rien de bon pour ce projet de loi et reflète un durcissement de la parole et des opinions publiques sur le sujet de l'immigration. Il faut que le gouvernement entende que rien ne va dans ce texte, le renvoie devant une commission mixte paritaire et tout sauf une solution. Il faut cesser l'entêtement et retirer définitivement ce texte. Au-delà de l'examen parlementaire, c'est également le débat médiatique l'entourant qui se montre dramatique, y compris sur des médias de service public et son lot d'émissions aux propos anti-migration, stigmatisants, caricaturaux, voire carrément haineux. La généralisation des fausses informations, des discours xénophobes et racistes doit cesser. Nous demandons un accueil digne, la régularisation large et durable de toutes les personnes sans papier et le respect des droits fondamentaux. Nous vous rappelons qu'une manifestation est prévue le lundi 18 décembre à l'occasion de la Journée internationale des personnes migrantes. Rendez-vous place de la République à 17h30.
Et après cette chronique de la CIMADE, on approche de la fin de l'émission d'information locale qui se termine toujours avec une recommandation de choses à se mettre dans les oreilles, à voir, à vivre près de chez vous. Là, il s'agit d'un spectacle dont on a déjà parlé dans l'émission il y a un petit peu plus d'un an, Barre-toi, histoire d'un plan social. Ce sera joué à l'ADEC, la maison du théâtre amateur à Rennes, dimanche 17 décembre à 16h. Une 12e représentation pour la compagnie du 4e écho qui retrace là le parcours de 13 femmes et hommes qui ont vécu le plan social de 2007 à l'usine de la Barre-Thomas à Rennes. Et cette pièce est en fait une adaptation d'un recueil de témoignages qui cherche à nous faire réfléchir sur la dureté du monde du travail. Pour dimanche, les tarifs ils vont de 2 à 5 euros, c'est sans réservation. Et ça se déroule dans le cadre de théâtre ici et là, les rendez-vous du théâtre amateur porté par la FETAR, la Fédération des troupes de théâtre amateur de l'agglomération rennaise. Depuis le mois de novembre et jusqu'en avril 2024, plein de spectacles sont ainsi proposés du côté de Chavagnes, Verne-sur-Sèche, Rennes, Vezin-le-Coquet et Orgères. Le détail est à retrouver en ligne sur une page Facebook. Je vous laisse avec un extrait de l'interview diffusée en novembre 2022 au sujet de la pièce Barre-toi, et c'était en compagnie du metteur en scène David Cabon.
Citroën a racheté les terres, enfin le site de la Barre-Thomas en 1951, et en 1953 vous avez donc la création de cette usine qui se situe en fait en face du Roizen Park, tout simplement sur la rocade. Vous voyez, enfin vous le voyez plus parce qu'aujourd'hui c'est un terrain vague, donc voilà, Citroën achète en 53, crée une usine où ce sera surtout du travail autour du caoutchouc et des roulements à billes, et à l'époque on est sur plusieurs milliers de salariés, de personnes qui travaillent soit sur le site de la Barre-Thomas ou soit sur le site de la Genet.
Et arrive un moment où finalement Citroën, PSA, sous-traite auprès d'un Américain, hein, c'est ça, okay.
Oui, tout à fait. Il y a eu dans les années 90 et surtout dans les années 2000, il y a eu une succession d'employeurs en fait, ce qui fait que parfois quand on discute avec les ex-salariés, ils ne savaient même plus qui était leur propre patron. Donc il y a eu CF, des Italiens avec CF Goma, des Polonais, il y a eu Cooper Standard, SPBT, donc bon nombre de, voilà, notamment des fonds de pension dans les années 2000. Et donc dans les années 2000, il y a eu trois plans sociaux, dont celui de 2007, dont vous évoquez, où 207 salariés en effet ont été licenciés de manière très brutal.
Ouais, justement, il faut rappeler un peu l'ordre des événements. Ça s'est pas passé de manière très conventionnelle, puisque l'entreprise a commencé par dispenser d'activité les salariés avant justement de les licencier, ce qui a été contesté auprès du tribunal administratif qui a suspendu le plan.
Oui, tout à fait. Le plan social a été en fait une brutalité, et c'est ce qu'on souhaitait témoigner par à la fois le livre dont est tirée cette pièce de théâtre et la pièce en elle-même, c'est-à-dire de montrer que ça existe et que c'est, malheureusement je crois que ça existe encore, hein, ces manières brutales de licencier des personnes où en gros, pour certains, ils ont été 30 ans sur la chaîne de montage et on leur dit vous avez 20 minutes pour aller au vestiaire, même pas le temps de dire bonjour aux collègues et vous rentrez chez vous. Donc 30 ans de boîte, 20 minutes. Le décalage est énorme, il est inhumain en fait. C'est les termes qui sont employés, hein, par les personnes qui ont témoigné dans le recueil de témoignages. Et c'est ça qu'on a voulu, nous, le 4e écho, mettre en avant. La violence, la brutalité, et faire en sorte de ne pas oublier ces pratiques, ces méthodes. Et voir qu'on peut quand même essayer de finir par de l'optimisme. Parce qu'en effet, le plan social, il a été annulé.
La Rennes, c'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h sur Canal B et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour suivre l'émission, pensez à vous abonner à la newsletter Le Courrier de la Rennes. Le détail ainsi que les podcasts sont à retrouver en ligne sur canalb.fr. Je vous dis à bientôt.